Bonjour à tous. Donc, je crois qu'on est au début d'une journée qui s'annonce passionnante parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup aussi d'expériences différentes. Donc, c'est l'occasion de les partager et de discuter entre nous. Déjà Dimitri Jevitch, qui nous fait le plaisir de venir depuis Nice malgré le RER, enfin même pas sans le RER là d'ailleurs. Et qui anime, vous le savez, le mouvement pour la promotion de l'ethnologie, parlera, je pense, des enjeux, justement, d'un passage d'une programmation de l'ethnologie à l'école, dans les programmes. On a plusieurs associations aussi, dont c'est le travail régulier, qui ont cette expérience régulière depuis des années, donc qui vont nous apporter une expérience extrêmement riche, je pense. Moi, mon propos va être beaucoup plus simple et va se limiter à l'ethnologie. Alors, comme vous le savez, c'est une journée ethnologie préhistoire pour différentes raisons. D'une part, parce qu'en préhistoire aussi, il y a toute une expérience d'enseignement à l'école ou d'animation. Jacques Pellegrin, avec Isabelle Sidera, qui dirige le laboratoire préhistoire technologie, vont justement nous parler de leur expérience. Et donc, il y avait, du fait même d'être dans la même maison, une convergence, évidemment, d'intérêts et de préoccupations qu'il fallait essayer de mettre en valeur. Par ailleurs, pour ma propre expérience extrêmement limitée, avec ma femme, Daniela Berti, qui est ici, et qui travaille également en ethnologie de l'Inde, nous avons eu l'expérience très brève et qui va paraître ridicule à tous nos collègues expérimentés d'avoir essayé de faire une intervention en CE2, je crois, dans la classe de notre enfant. Et c'était dans un cours de préhistoire, puisque la préhistoire, elle est programmée à l'école. Et l'institutrice qui savait qu'on était ethnologue nous a demandé « Bon, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Alors, on a essayé de se rattracher avec, par exemple, les propulseurs. On est parti d'objets. Donc, il y avait les propulseurs préhistoriques, et puis il y avait des savants américains qui s'entraînaient à essayer de lancer comme des hommes préhistoriques. Donc, on avait quelque chose d'ethnologique aussi à raconter sur les propulseurs. Et dans l'exposé aussi, à un moment, j'ai montré ce qu'on appelle les malafoutiers en français, c'est les toddy tapers en anglais, les gens qui grimpent sur des troncs d'arbres qui font parfois jusqu'à 30 mètres pour aller récolter du vin de palme. Donc, c'est un outillage très simple, ce sont des cordes, et puis ils grimpent c'est quelque chose de très dangereux, ça demande une très grande technicité, précisément avec un appareillage extrêmement simple. Donc on a essayé de traduire ça. Mais la réflexion, c'était « Oh, ils sont tout nus ». Et donc, on s'est trouvé confronté à une difficulté, et c'est un petit peu de ça dont je voudrais parler dans ma brève introduction, qui est, on essaye de faire passer un certain contenu, et puis, eh bien, malgré soi, on en vient à, peut-être pas à conforter, mais parce qu'on peut intervenir, donc on peut discuter pourquoi il est nu. Il vaut mieux faire ça dans l'état où il est plutôt qu'en costume-cravate, ça c'est assez clair, donc les enfants le comprennent. Mais on voit qu'on est rapidement confronté à des choses qu'on n'avait pas forcément prévues et qui portent sur les différences de culture. Et donc le risque de renforcer des stéréotypes, alors même que précisément, on voudrait traverser ces différences culturelles pour montrer quelque chose d'humain, de commun à l'humanité, placé dans des circonstances ou des histoires différentes. Alors, c'est un petit peu pour ça que j'ai intitulé ça le complexe d'Obélix, parce que... alors, c'est la touche, laquelle ? La celle-là ? Ouais. Ah. On connaît bien la phrase clé d'Obélix, « Ils sont fous, ces Romains ». Donc, en principe, on essaye de faire le contraire en ethnologie. On essaye de montrer que ces Romains ne sont pas fous. Mais ce n'est pas drôle, évidemment. La phrase « Ils sont fous, ces Romains » peut faire rire un certain nombre de personnes. Mais si on commence à dire « Ils ne sont pas du tout fous, ces Romains », on va faire peut-être des choses intéressantes, mais elles ne vont pas être très comiques, a priori. Donc, il se pose un problème à ce moment-là. Peut-être qu'on a un bon contenu, mais comment faire passer qu'ils ne sont pas fous, ces Romains, va peut-être poser aussi des difficultés. En tout cas, ça mérite d'y réfléchir. Et quelque part, j'appelle ça le complexe d'Obélix, parce que l'ethnologue lui-même, il est un peu pris dans ce piège-là, Parce qu'assez souvent, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas dans mon cas et dans le cas d'autres collègues, on a pu être attiré par l'ethnologie, non pas forcément par l'exotisme de pacotille, mais en tout cas par une certaine altérité qu'on trouve dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, et qu'on cherche justement à comprendre. Donc on est à la fois attiré par la différence, et puis en même temps, le job, ça va être de la comprendre et de la travailler, on va dire. Donc, on est un petit peu pris entre ces deux images, voilà. Mais évidemment, ce qu'on cherche à passer dans une école ou auprès d'un public, quel qu'il soit, même scientifique, c'est plutôt la deuxième image. C'est d'autant plus important que pour nous, ça a pu nous faire rigoler, et ça a pu faire rigoler un certain nombre de gens, mais ça ne fait pas forcément rigoler une partie des Italiens. Je pense qu'il y a beaucoup d'Italiens qui rigolent avec ça, mais la Ligue du Nord, en tout cas, n'a pas apprécié. Donc là, il y a des parlementaires de la Ligue du Nord qui cherchent à faire interdire cette expression dans la bande dessinée. Donc il y a des enjeux politiques aussi, finalement, même si on peut penser que l'intention de Goscinny et d'Uderzo, c'était plutôt de critiquer Obélix. C'est-à-dire, Obélix, à la fois, il paraît être le naïf avec le bon sens, mais en même temps, il est un peu ridicule de dire ça. Il est on voit d'après le scénario lui-même que c'est une mauvaise réaction, on pourrait dire. Donc je pense que la bande dessinée elle-même n'est pas trop ambiguë, mais il peut y avoir cette lecture politique possible, à laquelle s'expose évidemment l'ethnologue lui-même. Alors, je me suis posé d'autres questions un peu sur comment on peut faire donc, pour rendre, on pourrait dire, l'ethnologie rigolote. Alors, sans qu'elle soit exotique, sans qu'ils soient fous ces Romains, comment on peut faire pour faire passer l'ethnologie? Alors, on peut faire de la simplification en ethnologie, de la synthèse, de la vulgarisation, sans chercher à être drôle. Je suis tout à fait d'accord, et on n'est pas du tout obligé. Moi, je me suis posé cette question, est-ce qu'on peut être drôle en ethnologie? Alors, il y avait une autre piste. Une autre piste, c'est qu'en fait, il y a toute une série de livres qui sont britanniques, en fait, et non américains, qui font de la vulgarisation scientifique plutôt bonne. Elle est même assez bonne. Et là encore, c'est notre garçon qui nous montre la voie. Lui, il y a complètement accroché. Il a lu toute la série des Murderous Math. Il y a, je ne sais pas, une dizaine de volumes. Et il est capable de comprendre maintenant les racines carrées, alors qu'il a 10 ans. Enfin, il a compris des principes. Il ne sait pas s'il saurait bien les appliquer. Il fait toujours des erreurs d'opération. Mais les principes, il les a compris, et des principes assez subtils parfois. Ça marche très bien. Mais la présentation, elle donne évidemment dans le côté gore, dans le côté horrible. Et pour la génération actuelle d'enfants, c'est quelque chose qui fonctionne à 100%. En plus, c'est quand même assez drôle. Hein, j'ai choisi une couverture d'un de ces livres. On ne le lit pas très bien, mais l'extraterrestre est en train de dire « No, I said take us to your ruler ». Et puis, la fille lui montre sa règle, qui est également ruler. Donc, c'est un jeu de mots. Mais il y a pas mal de choses amusantes dans le texte. Donc, ça fonctionne très bien. Alors, sur les maths, ça marche. Ça marche même très bien, hein, au moins d'après la publicité qu'on trouve sur Internet. On voit une sosie de la reine d'Angleterre dévorer le livre. Il y a ensuite d'autres séries. Il y a par exemple, c'est par là qu'on avait commencé, les Horrible Histories. Et il y a toute une série de livres. Mais il y a également, alors les Romains, là j'ai pris l'exemple parce que je trouvais le jeu de mots avec Jules César plutôt amusant, mais... Mais il y a d'autres séries, il y a Horrible Science, Horribly Famous, Horrible Geography. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait faire Horrible Ethnology? J'ai essayé de trouver, et en fait, ça me paraît impossible. Ouais, ça me paraît impossible. Et il y a un exemple, en fait, tiré des Horrible Histories. Il y a un volume sur les Aztèques, donc ça fait partie de l'histoire. En même temps, on est dans quelque chose d'une présentation qui va être sur une civilisation, sur une culture. Et on voit que là, ça marche un peu moins bien, le côté on rigole bien des Stuarts ou des Tudors. Ça, on rigole bien, c'est pas un problème. On rigole bien des Aztèques, et on est surtout dans une optique horrible, bah, c'est assez facile, on va tout focaliser, enfin pas tout, une grande partie sur les sacrifices humains, sur les coutumes un petit peu zarbi qu'il pouvait y avoir, y compris dans l'éducation des enfants. Hein. Et donc là, on se trouve en porte-à-faux par rapport au projet de l'ethnologie. De nouveau, on revient un peu à « ils sont fous ces Romains ». Alors une autre solution, est-ce qu'on pourrait faire, un peu comme les « horribly famous », on pourrait faire des « horrible ethnographers ». Ça, c'est facile. Hein. On fait l'histoire de l'ethnographie, en fait, toute la déconstruction critique qui peut se faire dans les études postcoloniales, par exemple, sur l'ethnologie, elle pourrait faire une série sur « horrible ethnographers ». On prendrait Malinowski, on prendrait d'autres, enfin, on a quand même le choix, y compris parmi nous-mêmes, on pourrait tout à fait certainement donner prise à la critique. Donc là, il y a une possibilité peut-être, encore que ça n'est qu'un créneau, ça ne va pas représenter non plus toute l'ethnologie, mais c'est une porte d'entrée. Simplement, on a un exemple qui a déjà été fait par Nigel Barré, et c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès, c'est quelque chose dans lequel lui-même il pratique l'autodérision, et quelque part je trouve que ce succès est un peu ambigu parce qu'il pratique l'autodérision, mais quelque part c'est « ils sont fous, ces Africains aussi ». Donc ça reste ambigu. Donc on n'est pas complètement sorti de « ils sont fous, ces Romains ». Voilà. J'ai pas de solution miracle, je voulais juste pointer ces difficultés, et pour conclure... Je pense que le passage de l'ethnologie auprès de public, soit public général, soit le public jeune des lycées, des collèges ou de l'école primaire, pose des questions sur les contenus. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? Alors, il me semble qu'il y a des choses qui sont relativement, non pas forcément faciles, mais enfin plus facilement contrôlables. C'est parler des objets, des techniques. Ça, on arrive à le faire, je pense. Des gestes, des chaînes opératoires, toutes ces choses-là, on peut les faire d'un point de vue anthropologique sans tomber dans « ils sont fous, c'est ». On peut aussi, et on a des exemples, bon, on va en parler certainement dans la matinée et cet après-midi, on peut plutôt chercher à développer la démarche anthropologique, le regard, la vision, hein, la méthodologie. On peut aussi, donc, comme les horrible ethnographers, faire une histoire de l'ethnologie. On a tous appris, je pense, une grande partie de notre bagage d'ethnologue en suivant ou en lisant l'histoire de l'ethnologie. Hein, c'est extrêmement instructif, on apprend énormément de choses. Donc ça peut aussi passer. Le plus difficile, il semble, mais je crois qu'il ne faut pas reculer devant cette difficulté, c'est de parler d'autres cultures. Et pourquoi il ne faut pas reculer nécessairement devant cette difficulté ? C'est parce que, quelque part, c'est aussi un des enjeux du passage de l'ethnologie à l'école, c'est-à-dire on n'aura pas la prétention de transformer tous les enfants en futurs ethnologues. Donc, l'enjeu qu'il peut y avoir, c'est une façon différente de regarder l'autre, de travailler l'altérité, justement. Alors, tout ce que je viens d'énoncer avant, ça peut y contribuer, mais quelque part... Au cœur du projet ethnologique traditionnel et peut-être encore même maintenant, et en tout cas je pense au cœur des enjeux du passage de l'ethnologie à l'école, il y a ce travail sur la culture, sur les différences en tout cas, qui peut s'approcher encore une fois avec différentes méthodes, mais ça vous voyez, ben, j'arrête, j'ai 15 minutes, je rajoute 3 secondes. Il faut également, on a tous des expériences, ou beaucoup ont des expériences ponctuelles. Je crois qu'il faut garder également à l'esprit le fait que si on passe à une autre échelle, c'est-à-dire à une échelle où l'ethnologie serait programmée à l'école, à quelque niveau que ce soit, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser exactement les mêmes moyens. C'est-à-dire qu'il faut penser à une autre échelle avec donc, des programmes, des gens, qui va faire quoi, et quelque chose qui marcherait bien à un niveau local, peut ne pas être applicable à plus grande échelle. Donc c'est également quelque chose à conserver. Je m'arrête là.